histoire et conte.
Pédale gauche. Le feu rouge approchait. Encore 200 mètres. Robert passa au point mort. Trois voitures le précédaient. Avec un peu de chance, cela suffirait. La distance s'amenuisait. Bientôt, il parviendrait à ce qu'il nommait le point critique. L'endroit à partir duquel, s'il ne freinait pas, et si le train de véhicules devant lui ne bougeait pas, l'accident devenait possible. Il préférait ne pas avoir à le franchir. À la fois, cela lui donnait un petit frisson, une sorte de sentiment de surpuissance, si, immédiatement après avoir atteint cette limite, les voitures avançaient. À la fois, il ne tolérait pas la tôle froissée. Cela ne faisait pas partie du jeu et pouvait être considéré comme un échec. Évidemment, il fallait envisager le cas où, seul sur la route, un feu obstinément rouge lui faisait face. Dépasser le seuil critique revenait alors à prendre le risque de le brûler. Derrière, demeurait encore la possibilité d'un accrochage ou celui d'une contravention. Encore des échecs, tout cela. Non, l'art consistait à ne pas se mettre dans ce genre de situation et à anticiper habilement. Car Robert était intelligent, ou du moins se considérait-il comme tel. Avec quelle maîtrise ne parvenait-il pas à traverser 95% des carrefours au vert ? Les 5% restants ne saurait lui être reproché. N'était-ce pas ce qu'on nomme en statistique l'intervalle de confiance de premier ordre, celui qu'on utilise dans les sondages d'opinion ? Peu de gens connaissaient son secret, quelques intimes tout au plus, et ils n'étaient pas entièrement sûrs qu'ils appréciaient à leur juste valeur ses performances. Mais qu'importait ? Les gens qu'ils croisaient, en revanche, ne soupçonnaient rien. Ils conduisaient comme des primitifs, sans nuance, sans finesse, sans but, sans économie aussi, car ne pas freiner représentait une immense épargne d'essence. Il était sans doute le seul en France à ne dépenser que 5,215 litres au 100 avec une 406 Peugeot. C'était même incroyable. Robert s'esclaffa, en guise de conclusion au déroulement de ses pensées. Il allait atteindre le point C. Un afflux d'hormones le gonfla brutalement. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas offert un petit plaisir. Il évalua la largeur du bas-côté. Cela paraissait suffisant. Impassible, il avala la zone. Pratiquement au même moment, le feu se mit au vert. Il restait 30 mètres. Selon les réflexes des conducteurs devant lui, il pourrait peut-être ne pas avoir à utiliser son plan B. 10 mètres. La voiture devant lui s'ébranla. Sa vitesse avait considérablement diminué, mais si l'autre ne s'énervait pas, il allait lui raccourcir le coffre. Le chauffeur augmenta sa vitesse. Il devait rester 10 cm entre sa voiture et celle de Robert. Celui-ci, inébranlable, enclencha la seconde, utilisant à merveille le frein moteur. La distance s'étira jusqu'à une quinzaine de mètres. C'était gagné. Robert baissa sa vitre et hurla brièvement à un passant son succès. C'était phénoménal. Lorsqu'il serait arrivé à destination, et pas avant pour ne pas user inutilement du carburant, il noterait tout cela dans son carnet à l'aide de son stylo doré. C'était un grand jour. Les gestes obscènes que lui lançait par la fenêtre le conducteur devant lui, ne le concernèrent pas. De toute façon, c'était un imbécile. Inutile de lui expliquer quoi que ce soit, il ne pouvait pas comprendre. Robert s'installa au point mort au début du boulevard de la République et, comme un bateau arrivant doucement à quai, se gara au ralenti devant le numéro 18. Il serra le frein à main pour immobiliser le véhicule et sortit en arborant un sourire de satisfaction. Il grimpa les escaliers et sonna au premier étage, encore empli des succès de son parcours. Virginie vint lui ouvrir. Tout de suite, il l'attrapa par la taille et l'embrassa sur le front. Il la dominait de plus d'une tête, ce qui était un avantage. Elle se dégagea mollement. Elle n'avait jamais réussi à le repousser au premier contact. À chaque fois, il la surprenait, se comportant comme s'ils étaient toujours ensemble, comme s'ils étaient toujours intimes et comme si rien n'avait jamais changé. « Sophie va bien, » entama Virginie. Il lui faisait un peu peur et elle avait toujours besoin d'essayer de désamorcer la tension qui s'amorçait en elle. Lui ne semblait rien ressentir. Son demi-sourire quasi permanent la fascinait. Au fond, il avait l'air gentil. Ils s'installèrent sur le canapé de la salle de séjour. C'était étrange comme il parvenait, l'espace d'une heure, à lui faire rejouer une situation de couple et même de parents. Pour lui, ils n'étaient pas séparés. Sophie entra. Elle courut vers son père qui la posa sur ses genoux. « Tu as bien travaillé à l'école ?»« Oui, j'ai fait un beau dessin. Je vais te le montrer. » Robert passa doucement la main dans les cheveux de Virginie. « Finalement, il est affectueux, pensa-t-elle. J'ai peut-être été trop dur avec lui. » Sophie revint. Son dessin représentait une maison sans fenêtre. « Ta mère ne t'a pas expliqué que sans fenêtre, on ne voit rien dans une maison ?» Sophie le regarda avec des yeux immenses. Trouvait-il son dessin beau ou non ? Il la saisit au niveau de la ceinture et la replaça sur ses genoux. Doucement, il lui lissa sa queue de cheval. « C'est important de bien travailler à l'école, tu sais ?»«
Oui, je sais. »
Robert se tourna vers Virginie. « Je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Mon lave-vaisselle est en panne et le réparateur ne peut venir qu'aujourd'hui à 16 heures. J'ai peur que la pompe n'ait lâché et que je doive en racheter un neuf. » « Aïe !» compatit Virginie. Il promenait maintenant ses mains dans les boucles de sa fille et de son ancienne copine. Évidemment, tout cela avait été une erreur. Mais ce n'était pas de sa faute. Elle l'avait manipulé, c'était évident. Il n'empêche, il aurait dû mieux contrôler la situation. Il fallait maintenant gérer les dégâts. Il sortit son carnet de chèques. « Du coup, je suis un peu juste ce mois-ci. » Il signa un chèque amputé du tiers de la pension qu'il devait verser légalement. Virginie soupira. C'était chaque mois pareil. Elle ne parvenait jamais à obtenir la pension complète. Il y avait toujours une cause extérieure qui faisait qu'il ne pouvait pas régler la totalité. « Bon, je dois y aller, » murmura-t-il d'une voix angélique. Il embrassa doucement sa fille sur les deux joues, la cajola encore un peu et se dirigea vers la porte. Sur le palier, il posa délicatement une main sur l'épaule de Virginie et l'embrassa affectueusement. « À bientôt, » promit-il. Il descendit l'escalier sans se retourner. Surtout, ne pas fixer de date. C'était la seule façon de tenir les rênes de la relation. Et sauter un mois lui permettait de faire un rabais sur la pension qui apparaissait malgré tout comme plus importante que s'il l'avait versée régulièrement. Il ressortit dans la rue, souriant définitivement à la planète entière. En fait, le réparateur du lave-vaisselle ne venait que le lendemain, à 16 heures. Il n'avait donc pas menti puisqu'il n'avait pas précisé le jour. Car il n'aimait pas mentir. Ses amis étaient tous persuadés de sa totale honnêteté et de sa gentillesse innée. Il n'avait pas eu de chance avec Virginie, ni avec Ingrid et Laura d'ailleurs. Mais Ingrid et Laura étaient des étrangères qui avaient nettement abusé de son ignorance des cultures hors frontières. Il était une victime de la vie. Et trois pensions alimentaires, c'était trop pour un petit salaire de fonctionnaire. Il reprit sa voiture et se dirigea chez lui. Il y avait une demi-heure de route. Connaissant le parcours par cœur, il réussit un sans-faute, c'est-à-dire 100% de feu vert, grâce à son sens inouï de l'anticipation. Ayant coupé le contact à l'entrée du parking souterrain, il commença à pousser la voiture à la main. Ce n'était pas très difficile. Le sol était parfaitement plat, lisse, et on pouvait ralentir la voiture sans utiliser les pédales. Il la gara ainsi au ras du pilier qui bordait sa place au numéro 18. C'était clair, il n'aurait jamais pu ranger la voiture avec une telle précision s'il était resté au volant. Sa technique était donc entièrement justifiée. Pour ceux qui auraient douté, il économisait ainsi l'essence sur 40 mètres, plus la manœuvre, ce qui n'était pas rien. En considérant qu'il rentrait sa voiture au parking deux fois par jour en moyenne, le gain sur une année correspondait à 14 600 mètres, soit 14,6 km, ce qui représentait plus d'un euro d'économie. Cet euro, Robert l'utilisait chaque année au 1er janvier, dans le bar situé en bas de sa rue. Le café n'avait pas le même goût que les autres. C'était l'expresso gagné par son sens exceptionnel de l'économie, sans compter l'usure de la voiture épargnée. Robert monta les escaliers. Il n'aimait pas l'ascenseur. La poignée de la porte céda doucement. Odile était donc là. Elle vint l'accueillir. Il l'attrapa par les épaules et l'embrassa longuement. Elle fondit en lui comme du sucre d'orge. Il parlait très peu, ça ne servait à rien. « Tu as trouvé un nouveau lave-vaisselle ?» s'enquit-elle. « C'était trop cher, j'ai appelé un réparateur. Il viendra demain après-midi. Tu pourras être là ?»« Bien sûr, tu as eu raison. Après tout, il n'est peut-être pas mort. »« C'est ce que je me suis dit. Je boirai bien un verre. Tu peux me servir un whisky ?» En passant devant la cuisine, Robert remarqua la cafetière allumée. Il la débrancha d'un geste brusque et alla s'affaler sur le canapé. Il attrapa la télécommande et mit la 3. C'était France, pays de Galles, et il ne pouvait pas manquer ça. Odile arriva avec un plateau, portant son verre et une tasse. « Tu as débranché la cafetière ?»« Les heures creuses sont à 17h. » Odile vint s'asseoir à côté de lui. Elle se blottit contre son épaule, regardant vaguement l'écran. Le téléphone sonna. Odile voulut se lever. Robert lui agrippa l'épaule et la fit se rasseoir. Combien de fois lui avait-il expliqué qu'elle ne devait pas décrocher le combiné ? Elle ne comprenait vraiment rien. « Oui, oui, peut-être, pourquoi pas. Bon, je te rappelle. » Il raccrocha, l'air détaché, et alla se rasseoir à côté de sa compagne. Suivre ce match devenait difficile. Évidemment, c'était Laura qui se permettait de lui rappeler qu'il ne lui avait rien versé depuis 3 mois. Et alors, il n'était pas la Banque de France. Elle lui annonçait que son fils était malade et que cela coûtait cher. Et puis quoi encore? Elle n'avait qu'à mieux s'en occuper. La France perdit 23 à 15. Incompréhensible. Ils avaient dominé tout le match. Mauvaise journée. Et si on allait faire un tour à Ikea, proposa-t-il. Elle avait à peine répondu que déjà il s'était levé, avait enfilé une veste et franchi la porte de l'appartement. Il la poussa doucement et descendit les escaliers 2 marches à la fois. Odile dut mettre ses chaussures, trouver un manteau et fermer la porte à clé. Elle courut derrière lui en essayant de ne pas se tordre une cheville. Lorsqu'elle le rejoignit, il était déjà en train de pousser la voiture vers la sortie du garage. « Ça ne serait pas plus simple de mettre le moteur en marche » osa-t-elle. « C'est pour les voisins, ça fait moins de bruit. Tu veux conduire ?» Elle s'installa au volant. Elle connaissait par cœur la route vers Ikea, car il s'y rendait tous les vendredis. Il adorait ça. En général, il n'achetait rien. Rêvait aux simples économies qu'il pourrait faire en acquérant tel bureau ou telle table lui suffisait. « Ne freine pas, lui ordonna-t-il sèchement. Tu vois bien que le feu va passer au vert. Les voitures viennent de s'arrêter sur l'autre axe. » Odile tremblait légèrement. Elle respectait ses manies, les acceptant sans les analyser. Ils arrivèrent au ralenti sur le parking d'Ikea. Elle se gara en évitant de justesse un camping-car voisin. Elle supporta en silence la bordée d'injures du propriétaire qui revenait avec un caddie rempli de meubles en pièces détachées, Robert haussa les épaules. « Si tu avais pris le virage un peu plus large, commenta-t-il, il n'y aurait pas eu de problème et tu aurais pu finir au frein à main. Enfin, c'est comme ça qu'on apprend. » Ils déambulèrent 3 bonnes heures dans le magasin, Robert épluchant la liste de tous les articles en détail. Finalement, il acheta une pince à sucre en bois blanc en promotion. Une affaire. Il conduisit au retour avec une maestria peu commune. À 2 ou 3 reprises, Odile appuya par réflexe son pied droit sur la moquette de la voiture. Il la dévisagea à chaque fois d'un air glacial. Au moment où il descendait de la voiture pour la faire rouler rituellement dans le garage, une fille l'aborda. « Ah, salut » articula-t-il, « ça va ?» La fille fixa Odile quelques secondes, puis s'éclipsa gênée. « Qui était-ce » s'enquit Odile. « Une ancienne voisine. Je me demande ce qu'elle faisait là. » Ils remontèrent à l'appartement. C'était l'heure de la météo. Pendant qu'elle lui servait une bière, il nota sur son carnet le temps annoncé par la 2. Couvert avec éclaircie, averse le soir. Puis il zappa sur la 3. Beau temps avec quelques nuages. Eurosport annonçait quelques averses le matin, du beau temps à midi et des nuages l'après-midi. Cette activité l'accapara une bonne demi-heure, durant laquelle Odile prépara le repas. « Du canard au cèpe » annonça-t-elle. Il l'avala sans détourner le regard de l'écran. Après le repas, elle s'absorba dans la lecture d'un roman policier pendant qu'il regardait le film. De temps en temps, il lui jetait un coup d'œil, l'air de lui dire « Laisse ton livre et viens me rejoindre ». Il n'aimait pas trop ses accès d'indépendance. À 22 heures, ils allèrent se coucher. « Demain, je ne serai pas là », lui déclara-t-il après leurs étreintes. « N'oublie pas le lave-vaisselle. » Il partit tôt, la laissant endormie après avoir bu le café juste à temps, avant le passage aux heures pleines. Il avait débranché la cafetière, roulé le fil qu'il avait noué avec une ficelle. Le message serait clair, s'était-il dit. Durant plusieurs heures, la pluie l'accompagna. Eurosport avait eu raison, comme toujours. Freiner était d'autant plus déconseillé que la chaussée était glissante. Son système s'en trouvait encore renforcé. Pourquoi avait-il accepté de revoir Cécile? Il se le demandait bien. Mais comment avait-elle pu le traquer jusque dans son garage? Cela l'avait contraint de mentir à Odile, ce qui était un manquement à ses principes. Il lui revaudrait ça. Elle ne lui avait pas laissé le choix. Cette fois, il s'en était sorti grâce à son génie de l'improvisation. Mais il flairait quelque chose de dangereux. Vers midi, il arriva chez Cécile. Ils s'étaient rencontrés 5 ou 6 ans plus tôt, alors qu'il assurait un remplacement dans son collège. Leur liaison régulière avait duré 3 mois, puis ils avaient conservé des contacts épisodiques. Le problème était qu'elle considérait encore qu'ils étaient ensemble. Elle attendait. Faire traîner en racontant qu'il essayait en vain de revenir dans son collège, mais qu'il n'avait pas assez de points, devenait trop usé. La rencontrer pour éviter les problèmes était devenu nécessaire. Il sonna à la porte de sa petite villa au numéro 18. Le jardin miniature, où ils avaient souvent pris le petit déjeuner au lever, devant les rosiers et les buis, n'avait pas changé. L'auvent de la porte l'abrita de la pluie, ce qu'il apprécia. « Ah, te voilà !» s'exclama-t-elle en ouvrant la porte. « J'ai eu peur que tu renonces à cause du mauvais temps. » La serrant contre lui, il l'embrassa doucement, longtemps, exagérément longtemps, comme pour relier dans le présent tous les pointillés du passé. Il pénétra chez elle et ils s'assirent sur le canapé Ikea qu'elle avait acheté sur ses conseils. « On m'a donné un poste à Avignon l'an prochain. Je pourrais essayer de voir au rectorat si je ne peux pas changer. »« Il le faudra bien, » affirma-t-elle. Il la regarda silencieusement, ouvrant ses yeux verts en signe d'interrogation. « Je suis enceinte. » Il ne tressaillit pas, constatant une fois de plus son incroyable maîtrise de lui. « De toi, » ajouta-t-elle. Elle se blottit contre lui, laissant s'épanouir sa joie sur son visage. J'ai un peu faim, murmura-t-il. C'est vrai, tu as fait une longue route. C'était qui, la fille qui t'aidait à pousser la voiture? Tu étais en panne?
Une voisine.
Il se dirigea vers le frigo et attrapa une bière. Il avait vraiment soif.
Je vais essayer de convaincre le rectorat, annonça-t-il.
Ils comprendront, ne t'inquiète pas. C'est merveilleux, non? Il lui caressa doucement les cheveux, puis le cou, la faisant vibrer comme un verre de cristal. Il ne fallait pas s'éterniser, pensa-t-il.
Je dois repartir vers 15h. Le réparateur du lave-vaisselle vient en fin d'après-midi. Le rendez-vous est pris depuis 2 semaines et je ne peux pas l'annuler.
Bien sûr, mon chéri.
Elle lui avait fait des écrevisses à la crème. C'était vraiment bon.
Il l'écouta, après le café, dérouler ses rêves de vie future avec lui. En silence, il était trop gentil pour la contredire. Quand ce fut l'heure, il l'embrassa encore une éternité, lui caressa doucement le ventre et la quitta. Elle le suivit longuement des yeux sur le pas de la porte. Il pleuvait toujours. Robert reprit le volant. Lyon, Valence, Avignon. Il franchit le télépéage sans s'arrêter, au risque d'arracher la barrière, et prit la route d'Apt. Finalement, Eurosport s'était trompé et la 2 avait eu raison. Il avait bien fait de noter les infos données par les différentes chaînes. Le feu approchait. Cela faisait longtemps qu'il était au vert. Si la Ford devant lui n'accélérait pas un peu, il n'allait pas pouvoir le franchir à temps. Il klaxonna et s'en voulut aussitôt, condamnant son manque de sang-froid. Cécile l'avait un peu exaspéré, se trouva-t-il comme excuse. La Ford ne modifia pas son allure et passa à l'orange. Il allait échouer. Ce n'était pas le moment avec la journée qu'il avait eue. Un petit succès personnel ne serait pas de trop. Brusquement, il rétrograda et enfonça son pied droit jusqu'au plancher. Le moteur poussa un hurlement et, déboîtant, il réussit à doubler la voiture qui le gênait en plein milieu du carrefour, évitant une Mercedes qui venait de sa gauche. Il eut juste le temps de se rabattre pour ne pas percuter la file de voitures qui s'accumulait devant le feu qui lui faisait face. Les crissements de pneus derrière lui lui firent à peine détourner la tête. La Ford avait pilé pour lui permettre de réaliser son exploit et avait peut-être provoqué un accident, pensa-t-il. Fair play, il tendit la main par la fenêtre pour remercier le chauffeur. Avant d'arriver chez lui, il fit le plein pour vérifier la consommation. 5,220 litres au 100. Son petit extra sur le carrefour avant Apt lui avait coûté 0,05 litres au 100 sur la moyenne. Il s'interdit de recommencer avant au moins 2 pleins. Méticuleusement, il fit avancer au pas sa voiture vers le numéro 18 et se paya le luxe de la lâcher sur les 2 derniers mètres, la faisant docilement se positionner à l'endroit exact qu'il avait projeté. Il monta les escaliers, lentement, repassa dans la mémoire les images de son retour. Il était gonflé de joie. La lumière filtrait sous la porte d'entrée. Odile était là. C'était rassurant. Il ouvrit la porte et entra chez lui. Il voulut la serrer dans ses bras. Elle paraissait bizarre. « Quelqu'un t'attend dans le séjour, » articula-t-elle blême. La porte de la cuisine était ouverte. Au passage, il débrancha la cafetière, puis pénétra dans la salle de séjour. « Monsieur Charbonnier ?»«
En effet. » »«
Inspecteur Lavoisier, le conducteur d'une escorte a relevé un numéro qui semble être celui de votre voiture. Vos prouesses sur la RN100 auraient déjà fait 5 morts et 7 blessés. » Après une rapide enquête et quelques recoupements, il apparaît qu'une bonne centaine de personnes auraient signalé votre conduite inconsciente en toute la région depuis plusieurs années. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je pense que demain, vous aurez la satisfaction d'être admiré sur toutes les chaînes, rajouta l'inspecteur.